correspondant à vos goûts pour vous la faire essayer. La clinique d'optométrie des îles, à la fine pointe de la technologie.
Prenez note qu'à la fin du trait prolongé, il sera exactement midi. Un rappel de la clinique d'optométrie des îles.
Vous syntonisez le 92.7 FM aux îles de la Madeleine.
Bon midi, mesdames et messieurs, ici François Delisle au micro et voici vos informations. Le 2 juin prochain se tiendra la 37e édition du Téléthon Opération Enfant Soleil sur l'archipel. Cette année, l'événement revient en salle devant le grand public au Centre récréatif de l'étang du Nord. Il sera toujours possible de visionner ce rendez-vous caritatif sur le web et en direct à la télévision pour les abonnés de Derry Télécom propulsé par Cogeco. La clinique santé première ligne du 6 des îles se rapproche progressivement de sa vitesse de croisière. Ouverte en septembre dernier, la nouvelle porte d'entrée dans le réseau de la santé et des services sociaux pour les insulaires sans médecin de famille visait à fonctionner à plein régime dès janvier 2024. Pour le moment, la clinique assure le suivi de près de 900 patients avec une équipe de 5 infirmières praticiennes spécialisées, 2 infirmières cliniciennes et une travailleuse sociale. Le chef de programme en soutien à domicile et services de santé physique de première ligne, Jean-Hugo Vigneault, précise qu'à terme, la clinique permettra de suivre davantage de Madelinos et de Madeliniennes.
Une infirmière là, praticienne d'expérience pourrait aller se développer un caseload là, ou une charge de cas qui irait jusqu'à environ 400 à 500 patients. Tout dépendamment aussi de son implication, est-ce qu'elle est seulement en inscription ou elle a d'autres tâches connexes. Donc évidemment, ces IPS-là vont prendre un peu moins de patients. On parle peut-être là, autour de 300-350 patients. Puis les nouvelles IPS qui viennent d'arriver, elles vont aller évidemment chercher un caseload un peu moindre. Fait qu'on parle de peut-être une centaine de patients. À ce moment-là.
Il rappelle également que les infirmières praticiennes spécialisées peuvent désormais prendre en charge des patients inscrits au guichet d'accès à un médecin de famille à la suite d'une décision du ministre de la Santé, Christian Dubé. Cela devrait aider à réduire l'attente pour les patients orphelins de l'archipel, selon M. Vigneault. Il ajoute que dans les prochains mois, le 6 des îles compte offrir des services de santé de première ligne à l'ensemble de la population à travers cette clinique.
Ce ne sera pas nécessaire éventuellement d'être inscrit à une IPS pour avoir accès aux services de la clinique santé première ligne. Il va y avoir du sans-rendez-vous qui va être disponible pour la population. On veut aussi diversifier nos heures d'ouverture. Présentement, on a les heures d'ouverture de 8 à 4 du lundi au vendredi. Mais on veut aller vers des heures là en soirée et en fin de semaine aussi. Donc ça aussi, c'est sur la table à dessin pour les prochaines semaines, prochains mois.
La prise en charge de nouveaux patients inscrits au guichet d'accès aux médecins de famille par les infirmières praticiennes spécialisées devrait débuter fin avril sur le territoire. L'aménagement du parc intergénérationnel de Havre-aux-Maisons sur le site de l'ancien terrain de Balmol débutera en juin. Maintenant que le sentier pédestre a été complété, la suite des travaux de la phase 1 sera menée par la firme Esquerre Aménagement qui a réalisé les travaux de structure de l'aide de jeu de la Grave. Le comité des loisirs de Havre-aux-Maisons dévoilait en assemblée générale qu'un parcours psychomoteur 0-5 ans incluant des modules en bois verrait le jour, tout comme un espace à pique-nique dominé par un gazebo surélevé. Le président du conseil d'administration, Louis-Michel Turbide, se réjouit de l'avancement de la démarche et espère que le parc deviendra un lieu rassembleur pour les citoyens.
Nous, finalement, on va, entre autres, aider à débourser pour ce qui est de l'ajout d'équipements qui va venir égayer le quotidien des utilisateurs de ce parc-là. On veut que les gens prennent l'habitude, finalement, de s'y rassembler, que ce soit autant pour de petites activités quotidiennes familiales que pour des festivals ou quelque chose du genre. Ça pourrait devenir un site très intéressant pour le village. Fin juin, début juillet, le parc devrait être prêt et sécuritaire à accueillir ses premiers utilisateurs.
D'autres phases d'aménagement sont prévues ultérieurement. Lors de la rencontre qui avait lieu du côté de la Maison de la Culture, le conseil d'administration a aussi présenté son bilan de 2023. Parmi les faits saillants, Louis-Michel Turbide note la refonte de la structure organisationnelle du comité, ce qui soulage les administrateurs d'une part de la charge de travail. Il explique que des sous-groupes dédiés à l'événementiel ont été formés.
L'idée était que les membres du CA puissent se concentrer sur les obligations administratives récurrentes et ne pas trop avoir à se mêler de l'événementiel, entre guillemets. Ça commence à être une formule gagnant-gagnant dans le sens où on essaie de donner le plus d'autonomie possible à ces sous-comités-là. Ça permet de mettre en avant-plan la créativité de différentes personnes, puis évidemment aussi le déléguer pour éviter des surcharges de bénévolat, finalement, en quelque sorte.
Notons que les 4 administrateurs sortants ont été réélus, mais qu'un poste demeure vacant. Les membres du service de sécurité incendie feront le tour des résidences de l'archipel au cours des prochaines semaines pour sensibiliser la population et vérifier les avertisseurs de fumée. Le ministère de la Sécurité publique exige ce type de visite au moins une fois tous les 7 ans, si bien que les quelques 8000 bâtiments des îles seront visités par les pompiers ce printemps ou l'automne prochain. La technicienne en prévention Nathalie Arsenault explique la réglementation municipale en vigueur ainsi que le déroulement de l'exercice.
La dernière fois, quand on l'a fait, ça a super bien été. Ça va procéder avec 2 pompiers qui vont aller aux portes pour aller vérifier les avertisseurs de fumée. Comme vous savez, on a un règlement municipal depuis 2019 relatif à la prévention incendie. Le règlement pour les résidences sont un avertisseur de fumée par étage, fonctionnel, avec la pile qui fonctionne, qu'on change au changement d'heure. Puis, il y a l'avertisseur de fumée qui a une durée de vie de 10 ans.
Elle souligne par ailleurs l'importance des détecteurs de monoxyde de carbone pour les résidences dont le chauffage fonctionne au bois ou à l'huile, de même que la visibilité des numéros civiques, essentiels lors des interventions d'urgence. Le directeur du service, Simon Marie, ajoute qu'en milieu isolé, la prévention et les comportements responsables font toute la différence. De plus, il rappelle qu'en raison de la sécheresse printanière et des vents forts, les feux extérieurs sont interdits aux îles jusqu'au 1er juin pour éviter les accidents et préserver les personnes et les biens.
On a effectivement là l'impression d'une végétation complètement sèche, tout simplement qu'on sort de l'hiver, que c'était recouvert par la neige, que la végétation en fait a pas encore eu le temps de respirer, c'est encore très très sec, donc il y a un vrai risque de propagation associé notamment à des conditions météorologiques où on a encore des périodes de fort vent. Donc ce qui explique que pendant 2 mois, le temps que ça se reverdisse un petit peu, que ça se réhumidifie, on ait de l'herbe un petit peu plus verte.
Notant qu'en tout temps, les feux d'herbe, de broussailles et de matériaux de construction et d'ordures ménagères sont interdits sur le territoire, de même que les feux à ciel ouvert. Il est possible d'obtenir gratuitement un permis pour un feu sur la plage en contactant le service de sécurité incendie. Voilà qui complète votre bulletin d'information. Dans un instant, la météo et les manchettes sportives, et ensuite à l'émission L'épreuve des faits, on discute de cette clinique santé première ligne qui a vu le jour cet automne sur l'archipel pour savoir où nous en sommes dans le fonctionnement de celle-ci. On revient sur le comité des loisirs d'Havre-aux-Maisons et le parc intergénérationnel d'Havre-aux-Maisons avec Louis-Michel Turbide. Et comme tous les vendredis, nous vous présentons notre retour sur l'actualité de la semaine en compagnie des journalistes Laurence Damioul et Raphaël Lapierre. Mais tout de suite, les manchettes sportives, la météo, puis les manchettes sportives.
Vos pharmaciens et pharmaciennes propriétaires affiliés à Jean Coutu vous accueillent, vous écoutent et vous conseillent en pharmacie. Et grâce à l'application Jean Coutu Santé, ils vous permettent aussi d'accéder à votre dossier santé quand vous voulez pour que vous puissiez commander vos ordonnances sur l'heure du lunch, les payer en attendant votre café, passer les chercher en pharmacie quand c'est prêt ou encore les faire livrer chez vous. Demandez votre code d'accès au comptoir des ordonnances et téléchargez l'application Jean Coutu Santé sans plus tarder.
Prêt pour un défi éco-responsable? Réutile, en collaboration avec CFIM, vous propose de participer du 14 au 22 avril au défi éco-engagé Agissons pour notre planète. Aujourd'hui, votre défi est de préparer un repas avec un ingrédient local. En manque d'inspiration? Rendez-vous sur le Facebook de Réutile pour découvrir des idées et des alternatives pour que tout le monde puisse y participer. Alors, qu'attendez-vous pour vous inscrire et partager vos photos en taguant Réutile et tenter de gagner jusqu'à $150 en bons d'achat? Ensemble, agissons pour notre planète, car chaque geste compte.
Salut, c'est Marc Dupré. On me demande souvent pourquoi l'événement camion de GMC, c'est le moment idéal pour acheter, entre autres, un Sierra 1500 2024. C'est simple. C'était l'événement barbecue. Ben, t'achèterais un barbecue. C'était l'événement adopte un chaton. T'adopterais un chaton. Pis c'était l'événement j'installe des néons en dessous de mon auto. Ben là, j'y penserais deux fois.
Pendant l'événement camion de GMC, obtenez 6 500 $ de crédit à l'achat au comptant sur certains Sierra 1500 2024 sélectionnés. Les conditions s'appliquent. Détails à offre-gmc.ca.
Voici un message d'Antonin Valiquette, maire de la municipalité des Îles.
Chers Madeliniennes et Madelineaux, en cette semaine de l'Action bénévole, je voulais prendre le temps pour souligner le dévouement, la générosité et l'impact formidable des bénévoles dans notre communauté. Leur engagement fait toute la différence et est primordial pour les nombreuses activités et initiatives qui émergent chaque jour sur le territoire. J'aimerais également inviter la population à prendre le temps de remercier ces gens qui s'impliquent, que ce soit en leur offrant un simple mot de gratitude, en les encourageant dans leurs actions ou en vous joignant à eux pour faire du bénévolat. Chaque geste compte et contribue à nourrir l'esprit de solidarité et d'entraide qui anime nos îles de la Madeleine.
Bonne semaine de l'Action bénévole du 14 au 20 avril.
Peu importe le temps qu'il fait, l'équipe de Proxime Lapierre et Lapierre vous accompagne à tout moment et vous présente les prévisions météo que voici.
À la météo, on nous prévoit un temps généralement ensoleillé. Ici, il fait un magnifique soleil sur la Vernière. Vent du nord de 20 km/h avec rafale à 40, devenant léger cet après-midi. Un maximum de plus 5 degrés, indice UV de 5 ou modéré. Ce soir et cette nuit, on nous prévoit quelques nuages, de vent devenant du sud à 20 km/h avec rafale à 40 après minuit, minimum de plus 1. Samedi, eh bien, on nous prévoit un ennuagement de la pluie débutant en après-midi, hauteur prévue de 2 à 4 mm, vent du sud de 30 km/h avec rafale à 50, maximum de 6. Dimanche, on nous prévoit un temps nuageux avec 60% de probabilité d'averse et un maximum de 6 degrés également. Et ensuite, à partir de lundi prochain, bien, c'est un peu le retour du soleil avec une alternance de soleil et de nuages avec 30% de probabilité d'averse, du vent, un maximum de 8 degrés. Mardi, on nous prévoit une alternance de soleil et de nuages, du vent, un maximum de plus 4. Et jeudi et mercredi, pardon, une alternance de soleil et de nuages, un maximum de plus 5. De quoi nous donner un peu d'espoir pour passer à travers cette fin de semaine plutôt grise que l'on nous annonce. Pour ce qui est des heures de marée, la marée sera basse à 15h environ et elle sera haute à partir de 19h environ.
Chez Proxime, Lapierre et Lapierre, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour vous simplifier la vie et pour profiter de celle-ci. Notre équipe de plus de 60 employés est présente pour vous jour après jour afin que votre expérience en magasin soit des plus agréables. Ils vous accueillent avec le sourire et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour vous offrir un service de qualité à la hauteur de vos attentes. Ouvert les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 18h, les mercredis et jeudis de 8h30 à 21h, ainsi que les samedis et dimanches de 9h à 17h, chez Proxime, Lapierre et Lapierre, on est là pour vous.
Ce segment sport vous est présenté par l'Eudesport, votre concessionnaire Honda, qui effectue l'entretien des véhicules de toutes les marques sans exception et peut faire votre changement d'huile sans rendez-vous. Vous n'avez qu'à appeler tôt le matin au 418-986-4085. Honda, la puissance des rêves.
Au sport, d'abord dans la Ligue nationale de hockey, Nathan MacKinnon a fourni 2 passes pour établir un record de l'Avalanche avec 140 points dans une saison jeudi, alors que le Colorado a gagné 5-1 aux dépens des Oilers d'Edmonton. Autour de 51 buts et 89 passes, MacKinnon a battu par un point une marque de Peter Stastny établie en 1981-82 avec les Nordiques de Québec. Valérie Nichushkin, Nico Rataman, Josh Manson et Zach Parise ont été les buteurs de l'Avalanche, tandis que Justus Hanunen a fait 25 arrêts. Nikita Chibrikov a marqué le but déterminant à son premier match dans la LNH jeudi, guidant les Jets de Winnipeg vers un gain de 4-2 face aux Canucks de Vancouver. De l'arrière du filet, Niendredater a refilé au bas du cercle gauche au Russe de 21 ans qui a fait mouche d'un tir des poignets. C'était un 8e gain de suite pour les Jets obtenus devant la 10e salle comble de la saison au Canada Life Center. Frank Vatrano a réussi un tour du chapeau et les Ducks d'Anaheim ont terminé la saison sur une bonne note jeudi, l'emportant 4-1 face aux Golden Knights de Vegas. Combiné au gain des Kings contre les Hawks, le revers a fait glisser les Knights de la troisième place de leur section à la dernière des deux places additionnelles en vue des séries dans l'Ouest. Au premier tour, les confrontations seront donc Vegas-Dallas et Los Angeles-Edmonton. Ty Carty a fait dévier un tir frappé d'Olivier Bjornstrand dans l'objectif pour rompre l'égalité avec 2 minutes 40 à faire en temps réglementaire et le Kraken de Seattle a défait le Wild du Minnesota 4-3 jeudi dans un match marquant la fin de la saison des deux équipes. Yanni Gourde a marqué dans un filet désert pour le Kraken avant de voir le Wild réduire à nouveau l'écart à un seul but. Ryan Hartman a marqué à 6 contre 4 avec 65 secondes à faire et le gardien Marc-André Fleury au banc. Cependant, le gardien du Kraken, Joey Dacord, a finalement réussi à fermer la porte en fin de rencontre. Et en gymnastique, le gouvernement américain va indemniser des gymnastes victimes d'agressions sexuelles. Le ministère américain de la Justice va verser environ 100 millions de dollars à une centaine de gymnastes agressés sexuellement par l'ex-médecin de l'équipe nationale, Larry Nassar, pour mettre fin aux poursuites contre la police, a rapporté le Wall Street Journal. Larry Nassar, 60 ans, purge une peine de prison à vie après avoir été lourdement condamné en 2017 et 2018 pour les agressions sexuelles sur plus de 250 gymnastes, la plupart mineurs, commises au sein de la Fédération de gymnastique, à l'Université d'État du Michigan et dans un club de gymnastique. Voilà, c'était vos manchettes sportives. Dans quelques instants, on démarre le premier segment de l'émission L'épreuve des faits en parlant santé.
L'événement Formule gagnante, c'est l'événement qui vous met au volant d'une valeur gagnante Honda. Comme la Honda Civic, qualité, fiabilité, efficiente et amusante à conduire. Un habitacle rempli de caractéristiques, c'est la voiture la plus vendue au Canada Atlantique. La Civic est en location à partir de $97 par semaine, avec $0 en acompte. Ou encore, choisissez le financement spécial à l'achat à partir de 4,99%. L'événement Formule gagnante chez Le Desport, votre concessionnaire Honda. Si vous magasinez pour une valeur gagnante, choisissez notre gagnante, la Honda Civic.
Bonjour, bienvenue au dépanneur du village.
Salut, pour le concours plein gaz à CFIM, je suis venu chercher...
L'indice.
Wow!
Non, excuse-moi, mais comment ça marche le concours?
C'est simple, viens au dépanneur du village, trouve l'indice, va sur le site de CFIM et remplis le formulaire. Tu pourrais gagner 100$ d'essence à chaque vendredi.
OK, fait que tout ce que j'ai à faire, c'est aller au dépanneur du village puis trouver...
L'indice!
Oh, excuse-moi encore, c'était plus fort que moi.
Puis quand on aura un concours de chanteurs, on t'appellera.
Merci!
Un tirage à tous les vendredis, toute l'année.
Saviez-vous que des harengs ont été vus à quelques reprises dans les lagunes au cours des dernières années? C'est pour cette raison que le comité ZIP fait un appel à tous pour documenter la fraie du hareng de printemps. Si vous voyez du lait, des œufs ou des harengs, le comité ZIP vous invite à prendre une photo, prendre un point GPS sur votre cellulaire et appeler au 986-6633. Avec vos observations, le comité ZIP pourra se déplacer pour prendre des données sur place. Merci pour vos précieuses observations.
Midi 18 minutes, vous êtes à l'écoute de l'émission L'épreuve des faits. On commence en parlant de santé. Il y a la clinique Santé Première Ligne du 6 des Îles qui se rapproche progressivement de sa vitesse de croisière dans le contexte où justement maintenant les infirmières praticiennes spécialisées, aussi appelées IPS, parfois appelées dans les médias les super infirmières, vont pouvoir prendre en charge des patients inscrits sur le guichet d'accès à des médecins de famille. J'ai voulu en savoir davantage sur qu'est-ce qui se déroulait de ce côté-ci du 6 tests pour voir comment ça pouvait affecter l'offre de soins offerte aux Madelinots. Je me suis donc entretenu avec le chef de programme en soutien à domicile et services de santé physique de première ligne, Jean-Hugo Vigneault. Pour en savoir davantage, je lui ai d'abord demandé qu'est-ce qu'était cette clinique et comment elle venait compléter l'offre de services aux îles, et voici ce qu'il m'a répondu.
Bien, en fait, la clinique de santé première ligne, c'est une offre de services complémentaire qui rentre dans le panier de services des services généraux, là, volet santé. Donc, en septembre dernier, là, il y a eu une dissociation entre le GMF et le CIS des îles. Donc, les GMF, maintenant, sont privés en totalité. Du côté du CIS des îles, on avait une opportunité là, de développer quelque chose de nouveau. Puis, ça allait aussi dans l'élan là, des cliniques d'IPS que, comme tu l'as dit tantôt, là, c'est relativement nouveau, pas seulement aux îles, mais partout au Québec. C'est un modèle là, en développement, en mise en place. Puis on a embarqué dans ce modèle-là là, avec dans le but aussi de venir maximiser l'implication de nos IPS puis de potentialiser un peu leur rôle là, le mieux possible.
Qu'est-ce que justement une infirmière praticienne spécialisée, une IPS, pour que le monde comprenne bien justement qu'est-ce qu'elles font dans cette clinique? Qu'est-ce que ça apporte à la population des îles?
Ben, grosso modo, une IPS, tu as à la base une infirmière qui nécessairement doit déjà avoir pratiqué, doit avoir un certain nombre d'heures en pratique clinique. Puis suite à ça, ils prennent la décision d'aller se spécialiser à un certain niveau. Donc, les IPS qu'on a aux Îles-de-la-Madeleine, c'est des IPS de première ligne. Donc, ils vont avoir de la clientèle dans un contexte de santé première ligne. Il peut aussi y avoir des IPS en santé mentale, en santé physique adulte. Il y a différents types. C'est une maîtrise. Donc, ils retournent à l'école, vont faire une maîtrise, développent de nouvelles compétences, puis aussi obtiennent des droits supplémentaires là, au niveau des prescriptions, des diagnostics et tout et tout.
Évidemment, dans le cadre de la clinique santé première ligne, est-ce que les gens peuvent se demander, pour au moment d'être peut-être pris en charge par une infirmière praticienne spécialisée, c'est en quoi ça se distingue d'un médecin comme type de prise en charge?
Ben, je dirais que peut-être c'est un peu plus au niveau des champs de pratique. Si on parle d'un omnipraticien, va avoir un champ de pratique quand même plus large qui va s'adresser à une plus grande multitude de clientèles. Il peut s'occuper, je dirais, d'un peu n'importe quelle clientèle quand on parle de besoins de base. Puis après ça, si c'est des besoins qui se spécialisent, qui se complexifient, bon, ben, on peut aller vers de la deuxième, de la troisième ligne avec des médecins spécialistes. Pour les IPS, ils vont vraiment aller faire des études dans un champ de pratique plus ciblé. Comme je disais tantôt, ici, on a des IPS en première ligne. Donc, ces IPS-là sont, à mon point de vue, tout aussi compétentes quand on parle de besoins de santé première ligne, des diagnostics là, en lien avec des problématiques de santé physique. Comme on disait tantôt, si je pense à moi, j'ai un otite présentement, diagnostiquer un otite, diagnostiquer des problèmes de santé comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, elle ne pourrait pas aller diagnostiquer, dans le cas présent, une problématique de santé mentale, par exemple. Ça prendrait une IPS qui est spécialisée en santé mentale. Donc, je dirais que c'est peut-être un peu la différence ici, mais je dirais pour une grande proportion de la population, quand je dirais des besoins d'ordre généraux, l'IPS peut tout aussi bien faire le travail qu'un médecin là pour répondre aux besoins de santé. Il y a toujours la possibilité de référer. Puis à ce moment-là, si on s'aperçoit qu'il se développe une problématique subséquente à ça, puis que ça va à l'extérieur de son champ de pratique, ben l'IPS est habilité à le cibler puis à référer vers la bonne personne.
Et donc, justement, en raison de leurs compétences supplémentaires, de leur formation supplémentaire, on les utilise pour pouvoir, au CIS, pour pouvoir donner des services supplémentaires à la population. C'est quoi les services qui sont offerts dans la clinique IPS depuis son ouverture en septembre au CIS?
Comme on en avait discuté, là, peut-être avant les fêtes, là, si je me souviens bien, la clinique d'IPS est en ouverture progressive. Avant les fêtes, on voyait seulement la clientèle qui était déjà suivie par les IPS avant la transition du GMF vers la clinique de santé première ligne. Depuis janvier, on a poursuivi le développement. Donc là, maintenant, on voit aussi des patients en lien avec le GAP, qui est le guichet d'accès à la première ligne. Donc, les IPS voient cette clientèle-là. On a deux infirmières cliniciennes maintenant qui peuvent aussi voir de la clientèle là, pour différents besoins, soit à la demande des IPS ou en lien aussi avec le GAP, qui peuvent avoir des demandes du GAP. Tout récemment, on a l'arrivée d'une travailleuse sociale qui s'est jointe à l'équipe, qui elle aussi là, va pouvoir là, voir de la clientèle à ce niveau-là.
À l'automne, justement, quand on s'en était parlé, on visait d'avoir un fonctionnement, un roulement à temps à plein régime
oui.
à la clinique pour janvier. Où on en est? Est-ce que ça a été atteint pour janvier? Est-ce que maintenant on est à plein régime? Est-ce que l'équipe est complète, l'équipe de professionnels entourant les IPS également?
Je peux pas dire qu'on est encore à plein régime, puis on veut être prudent aussi à ce niveau-là pour pas ouvrir notre panier de services trop rapidement puis pas être en mesure de répondre à la demande. D'où le pourquoi on y va de manière graduelle. Comme je disais tantôt, on a commencé avec la clientèle déjà suivie. Après, on a ouvert à la clientèle du GAP. Là, bientôt, on s'en va vers l'inscription individuelle des IPS, de la clientèle à RAMQ aux IPS. Ça va être une prochaine étape. Puis suite à ça, probablement en cours d'été là, ou en tout cas dans les semaines qui vont venir, on va graduellement ouvrir à la population en général là, de plus en plus.
Et dites-moi, là justement, on parle de la clientèle qui était déjà suivie par les IPS. Là, on parle que depuis le 15 avril, le gouvernement a dit que les infirmières praticiennes spécialisées allaient pouvoir prendre en charge des patients inscrits au guichet d'accès aux médecins de famille là, auprès de la RAMQ pour les suivre dans certaines circonstances. Et vous dites que ça va se faire progressivement. On parle de combien de patients qui sont suivis par infirmières praticiennes spécialisées en ce moment? Une infirmière praticienne spécialisée assure le suivi de combien de personnes?
Je vous dirais que c'est variable en fonction du statut de l'infirmière. Comme par exemple, une infirmière là, praticienne d'expérience pourrait aller développer un caseload là, ou une charge de cas pardon qui irait jusqu'à environ 400 à 500 patients. Tout dépendamment aussi de son implication, est-ce qu'elle est seulement en inscription ou elle a d'autres tâches connexes? Ici, on a les IPS aussi impliqués en CHSLD. Donc, évidemment, ces IPS-là vont prendre un peu moins de patients. On parle peut-être là autour de 300, 350 patients. Les nouvelles IPS qui viennent d'arriver, qu'on appelle des candidates, elles vont aller évidemment chercher un caseload un peu moindre. Fait qu'on parle de peut-être une centaine de patients là, à ce moment-là.
Les infirmières praticiennes spécialisées ont maintenant la possibilité d'inscrire des patients inscrits au guichet d'accès aux médecins de famille du Québec pour les prendre en charge. Vous visez à ce que ça soit à quel moment cette inscription RAMQ aux îles?
On parle de la fin avril. Donc là, probablement là, dans la 29, 30 avril, 1er mai, dans ces eaux-là.
Et dites-moi, comme c'est nouveau, justement, c'est quoi les objectifs à moyen et long terme de la clinique Première Ligne? Comment est-ce que vous voyez le développement de la clinique?
La prochaine étape, c'est l'inscription au RAMQ. Comme je vous disais, suite à ça, nous, on a une offre de service qui est populationnelle. Donc, ce sera pas nécessaire éventuellement d'être inscrit à une IPS pour avoir accès aux services de la clinique Santé Première Ligne. Il va y avoir du sans-rendez-vous qui va être disponible pour la population. Donc ça, c'est une prochaine étape qu'on veut mettre en place éventuellement. On veut aussi diversifier nos heures d'ouverture. Présentement, on a les heures d'ouverture de 8 à 4 du lundi au vendredi. Mais on veut aller vers des heures là en soirée et en fin de semaine aussi. Donc ça aussi, c'est sur la table à dessin pour les prochaines semaines, prochains mois. Puis c'est ça, on y va une étape à la fois. Là, on regarde comment on peut y arriver. Le but aussi, c'est que les professionnels qui sont là soient en mesure de pratiquer, je dirais, de la bonne façon, à un rythme acceptable aussi. Comme je vous disais tantôt, je pense pas qu'on serait gagnant de les surcharger trop rapidement. Fait qu'on veut y aller de manière logique et graduelle. Mais depuis janvier, ça se développe là quand même bien.
Et dites-moi, s'il y a quelqu'un qui entendait l'entrevue puis qui disait, ben moi, ça m'intéresserait d'être suivi par une infirmière praticienne spécialisée, ça m'intéresserait d'être suivi à la clinique Première Ligne, Comment est-ce que les gens y ont accès? Est-ce que c'est un médecin qui les réfère? Est-ce que c'est le CIS qui y décide? Est-ce que c'est... Comment ça fonctionne?
Le processus d'inscription aux IPS va être un peu le même que le processus d'inscription à un médecin de famille. Donc, ils vont passer par le guichet d'accès à un médecin de famille qu'on appelle le GAMEF. Ils peuvent s'inscrire soit en ligne ou par téléphone, puis mettre leur nom sur cette genre de plateforme, liste d'attente là. Après ça, en fonction de leurs besoins, ils vont obtenir une priorité. Puis selon la priorité, ben, ils vont être plus ou moins rapidement dirigés vers un médecin ou une IPS. Puis à ce moment-là, ben, évidemment, on parle de clientèle orpheline, donc ça va être simplement de la clientèle orpheline. Pour le moment, il ne sera pas permis là, d'aller d'une référence d'un médecin vers une IPS, éventuellement dans une prochaine phase peut-être, mais pour le moment, il va vraiment avec la clientèle orpheline par le même processus, là, par le GAMEF.
Est-ce qu'une infirmière praticienne spécialisée peut décider de façon discrétionnaire de prendre quelqu'un en charge, par exemple, pour le moment, là, ça va peut-être changer avec les règles que le gouvernement veut instaurer, mais pour le moment, un médecin qui rencontrerait un patient au sans rendez-vous peut décider de le prendre en charge.
Oui.
Est-ce qu'une infirmière praticienne spécialisée va pouvoir faire ça ou elle va passer seulement par le GAMEF?
Pour le moment, le plan de match, c'est que ce soit exclusivement par le GAMEF, par la clientèle orpheline.
Jean-Hugo Vigneault, chef d'administration de programme en soutien à domicile et santé physique de première ligne. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Vous avez manqué la soirée Génie en herbe du 13 avril dernier au Pas perdu? Pas de souci, puisque le Son de la mer diffusera les affrontements de Génie en herbe, une compétition tout aussi pédagogique qu'amusante. Les 17, 18 et 19 avril dès 13h, c'est un rendez-vous à ne pas manquer sur les ondes du 92,7. La soirée Génie en herbe sur les ondes de CFIM, une présentation en partenariat avec le Cégep de la Gaspésie et des Îles, le Campus des Îles, la Crèmerie du Port et Windsor Minselet.
Comment je me suis payé un aussi beau système de son? Facile, j'ai gagné 1000 piastres au bingo de CFIM. Vous essayerez cette semaine, là, ça vaut la peine.
Midi 30 minutes, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission L'Épreuve des faits en compagnie de François Delisle et je suis maintenant rejoint par ma collègue journaliste Laurence Demioul. Bonjour Laurence.
Bonjour François.
Alors Laurence, il y avait une assemblée générale du comité des loisirs de Havre-aux-Maisons qui a permis de faire une mise à jour sur le volet de projet de pôle villageois, pardon, de la municipalité.
Oui, donc ça se déroulait cette semaine du côté de la maison de la culture en fait. Donc pour rappeler peut-être aux auditeurs ce qu'est en fait le projet de pôle villageois, c'est donc cette volonté de la municipalité de redynamiser des secteurs de village puis de créer un espace où pourraient se rencontrer des citoyens de tous âges, y socialiser, jouer évidemment aussi, être actifs sur le site. Donc ça passe par l'aménagement de parcs intergénérationnels où justement tout ce beau monde va pouvoir se côtoyer dans les jeux à l'extérieur, aller pique-niquer, des choses comme ça. C'est évidemment piloté par la municipalité, mais il y a implication du comité des loisirs. Et donc à Havre-aux-Maisons, c'est une volonté de longue date d'offrir un site de ce genre aux villageois, donc d'avoir des infrastructures accessibles pour les enfants en dehors de celles de l'école. Donc pour vous situer, là, le futur parc intergénérationnel de Havre-aux-Maisons sera situé sur l'ancien terrain de Balmol en fait, donc à côté du terrain de soccer qui lui-même est juste à côté de l'ancienne aréna. Donc on va venir revitaliser un petit peu ce site-là. Donc je vous propose en fait d'écouter un peu je vous propose d'écouter les propos du président du conseil d'administration du comité des loisirs de Havre-aux-Maisons, Louis-Michel Turbide, qui m'explique justement que ça fait un petit bout que le comité a ça en tête.
Pour être vraiment honnête, j'en oublie presque quand les premières ébauches ont été lancées de ce projet-là, mais je pense qu'on peut dire là, facilement depuis un bon 4-5 ans au minimum. C'est ça, évidemment, est arrivé la pandémie durant le processus. Beaucoup de remises en question aussi, à savoir est-ce que ça allait être la municipalité qui allait être propriétaire officiel des lieux ou est-ce que nous, on allait faire une acquisition du site, ces choses-là. Fait que il y a eu beaucoup de réflexions en ce sens-là. Mais officiellement, là, je dirais qu'on a choisi notre formule puis on est prêt à aller de l'avant avec ça. Il y a déjà évidemment des travaux qui sont commencés.
Et donc, quel est un peu le rôle, en fait, du comité dans ce projet-là? Si vous n'êtes pas propriétaire du site, de quelle manière êtes-vous impliqué dans la démarche?
En fait, l'idée est de donner un certain support à la municipalité pour peut-être pallier, en fait, là où surviennent leurs limites dans le processus, qui peuvent être, entre autres, évidemment, budgétaires. Alors, ce qu'on fait, là, nous, finalement, on va, entre autres, aider à débourser pour ce qui est de l'ajout d'équipement qui va venir égayer le quotidien des utilisateurs de ce parc-là.
Donc, vous n'êtes pas le principal gestionnaire du futur parc, si je comprends bien.
C'est exact. En fait, là, tout ce qui est maintenance et sécurité des lieux va être assuré par la municipalité. Puis nous, en fait, l'idée, là, c'est ça, c'est d'éviter peut-être de se menotter avec des charges qui peuvent être récurrentes à chaque année. Donc, au fond, on investit un peu ponctuellement selon les capacités financières et les ressources disponibles au moment venu, là, lorsque les différentes phases de développement de ce parc-là surviennent.
Donc, si tout se passe bien, François, la firme Escar Aménagement devrait débuter ses travaux dans le parc au début juin, ce qu'il est supposé, selon M. Turbide, que le site pourrait être donc accessible aux enfants, aux parents, à la fin du mois ou au début juillet.
Et qu'est-ce qu'on va venir y installer concrètement?
Bien, il faut savoir d'abord que le parc se déploie en plusieurs phases, comme tous les autres parcs intergénérationnels qui vont se développer au travers de l'archipel, donc pour amortir les coûts aussi. En termes de phase 1, donc le sentier de 250 mètres qui va en quelque sorte délimiter le parc est déjà complété. Je vous le confirme, j'habite juste à côté. Je l'ai vu de mes yeux vus. Donc, la ferme Escar va venir aménager en fait d'abord un parcours psychomoteur destiné aux 0-5 ans. Une surface qui va être recouverte de faux gazon sur laquelle on va venir installer des modules, des équipements de bois. Il y a un aperçu disponible de ce qui va être installé sur notre nouvelle en ligne. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Donc, des choses pour développer la motricité, les aptitudes des jeunes enfants. On procédera aussi à l'installation d'un espace à pique-nique juste à côté avec un abri ouvert de style gazebo.
Et si on en est à la phase 1, Laurence, qu'est-ce qui est à prévoir dans les phases suivantes?
Oui, donc on est phase 1 et phase 2 un peu tout en même temps, mais donc il va y avoir effectivement des phases, dis-je bien, ultérieures. Par exemple, on parle de la délimitation plus claire d'un terrain de volleyball, des jardins pour ceinturer le parc, l'aménagement d'une place publique en plein centre avec des installations pour accueillir des petits spectacles ou des petites performances. Eh bien, sinon, François, il y avait vraiment d'autres sujets là, à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du Comité des loisirs de Havron-Maison. On est notamment revenu sur le rapport d'activité de 2023. Une première consultation citoyenne, d'ailleurs, qui a eu lieu l'année passée, donc pour que le conseil d'administration puisse vérifier que ses ambitions, sa vision concordent avec les besoins de la population. On parle donc d'une rencontre qui a été très fructueuse du point de vue du CA. Puis, le groupe a aussi modifié sa structure organisationnelle pour donner un peu de lousse aux administrateurs et incorporer d'autres personnes dans sa gestion. Par exemple, pour l'événementiel. Donc, en fait, le CA a créé des sous-comités. Par exemple, un pour organiser la fête populaire de l'île au trésor. Voici à nouveau Louis-Michel Turbide et ses explications.
L'idée est de déléguer le plus possible pour ne pas que le bénévolat devienne un travail en quelque part. C'est ça. L'idée était que les membres du CA puissent se concentrer un peu sur les obligations administratives récurrentes que doivent assumer le centre des loisirs et ne pas trop avoir à se mêler de l'essentiel, entre guillemets, ou les quelques petites infrastructures dans lesquelles le centre des loisirs est impliqué. Fait que je voudrais dire que ça commence à être une formule gagnant-gagnant dans le sens où plusieurs personnes ont le goût de s'impliquer pour un seul événement en particulier ou une seule cause en particulier bien précise, mais n'ont pas nécessairement le goût de gérer la petite machine, si on veut, qui est le centre des loisirs de Havron-Maison. C'est ça. Jusqu'à maintenant, on a quand même une bonne réponse, mais il y a encore, évidemment, beaucoup de place à l'amélioration. Fait qu'on met des efforts en ce sens-là aussi.
Et c'est donc que chaque sous-comité gère un peu indépendamment, par exemple, un événement en façonne, se charge de l'organisation, donc par sous-comité?
Oui, c'est exact. Évidemment, toujours en gardant une certaine courroie de transmission avec le CA. Mais c'est sûr, on essaie de donner le plus d'autonomie possible à tous ces sous-comités-là. Ça permet, je pense, de mettre en avant-plan la créativité de différentes personnes, puis évidemment aussi là, de déléguer pour éviter des surcharges de bénévolat, finalement, en quelque sorte.
Puis, quelques exemples de ces sous-comités-là, de quel événement on parle, par exemple?
Il y a notre événement phare, là, qui est la chasse au trésor, qui est récurrente à chaque année en juillet. Ce sera la 29e édition 2024 et évidemment la 30e édition 2025. Sinon, on a la Croxifête qui revient à peu près à chaque année en même temps que le rendez-vous loup marin. On a notre événement de la fête nationale le 24 juin. Puis sinon aussi, là, pour des causes encore plus pointu, mais on va dire plus annuel aussi. Il y a le sentier pédestre dans le chemin du sentier qui est toujours très fréquenté dont Alain Poirier et Eva Cormier-Lankford font un super travail. Puis c'est ça, là, je dirais vite comme ça, c'est les premières choses qui me viennent en tête. On a aussi le sentier littéraire avec Chantal Cyr et Emmanuel Cyr. Et j'en oublie sûrement, je m'excuse, mais à brûle-pourpoint, comme ça, c'est les premiers sous-comités qui me viennent en tête.
Côté finances, François, donc l'organisation a terminé l'année 2023 avec un petit excédent, puis fait à noter intéressant, on remarque une augmentation assez sentie des revenus liés au bingo, donc du comité des loisirs. On explique ça en fait par le fait vis-à-vis de 2022 que en 2022, ben, les activités de bingo en salle n'ont pu reprendre qu'à partir du printemps, on se souviendra, à cause de la COVID. Et donc en 2023, ce n'est pas surprenant de voir une augmentation nécessairement de ses revenus, qui d'ailleurs constitue la source de financement principal du comité, mais quand même un bond de 32 % dans les revenus, il faut le mentionner. Et même le conseil d'administration soulignait qu'il y a plus de fréquentation et aussi plus de fréquentation de la part de personnes d'autres villages. Donc, on vient de plus loin pour assister au bingo de Havre-Maison.
Ils recrutent pour leur bingo. Super. Tant mieux pour eux. Alors, Laurence, quelles sont leurs priorités, sinon, pour l'année 2024?
Sans surprise, l'aménagement des premières phases, donc, du parc intergénérationnel, comme on le disait en début de segment. Recruter des bénévoles pour les différents sous-comités et pour les différents événements aussi. Élaborer la planification annuelle pour 2025. C'était une nouveauté, en fait, cette année, que le comité, donc, produise un calendrier annuel de ses activités. Ça semble être bien reçu de la part des citoyens. Donc, on veut refaire la même démarche en 2025. Et on garde toujours à l'œil, donc, les deux prochaines éditions, en fait, de la fête populaire de l'Île au Trésor. 29e édition cet été. Et donc, 30e l'année prochaine, on peut supposer que les célébrations seront d'envergure.
Et en effet, et cette année, sinon, on se rappelle, pardon, que l'année passée, justement, l'événement avait connu bien des défis avec la météo. On leur souhaite peut-être une meilleure météo cet été?
Oui, bien, je pense qu'on se souhaite tous une meilleure météo cet été, bien franchement, François. Mais donc, oui, l'année dernière, Dame Nature n'était vraiment pas du côté des événements extérieurs et c'est pourquoi le comité évalue actuellement des options pour un plan de contingence. Quelques paroles encore de Louis-Michel Turbide.
C'est quand même assez occupé au niveau des festivals pour ce qui est de juillet et août, puis on aime d'essayer de ne pas se marcher sur les pieds là, entre les organismes pour ne pas se faire des compétitions ou se cannibaliser, mettons. Fait que l'idée serait peut-être plus d'être capable d'avoir certains abris en cas de mauvaise météo. Fait qu'on jongle à soit l'achat d'un chapiteau ou un partenariat avec autre organisme qui aurait des endroits peut-être plus adaptés et qu'on pourrait accueillir des relativement grandes quantités de personnes en même temps, dans le cas où, encore une fois, là, Dame Nature ne serait pas de notre côté pour les diverses activités de la chasse au trésor.
En terminant, François, à l'instar de beaucoup d'organisations aux îles, même de conseils d'administration dans différentes organisations, on appelle à impliquer, donc à s'impliquer, recherche de bénévoles et aussi recherche de quelqu'un pour combler le dernier poste, en fait, au sein du conseil d'administration. Donc, il reste à combler.
Merci beaucoup, Laurence.
À tantôt.
« Prêt pour un défi éco-responsable? Du 14 au 22 avril, participez au défi éco-engagé Agissons pour notre planète. Réutile, en collaboration avec CFIM, vous propose 9 défis journaliers à réaliser. Rendez-vous sur le Facebook de Réutile ou sur la page concours de CFIM.ca pour connaître le défi du jour et découvrir des idées et des alternatives pour que tout le monde puisse participer. Alors, qu'attendez-vous pour vous inscrire et partager vos photos en taguant Réutile et tentez de gagner jusqu'à 150$ en bons d'achat. Ensemble, agissons pour notre planète car chaque geste compte.
Bénévoler, c'est faire rayonner ses valeurs et ses talents. C'est ce geste qui donne tout son sens à la place qu'on occupe dans notre collectivité. En s'impliquant auprès des causes qui nous animent, on s'ancre dans un milieu de vie et on contribue à une société en mouvance. Donner de son temps bénévolement est cette façon brillante de développer nos habiletés, de confirmer nos forces et d'aller à la rencontre de plusieurs personnalités qui éclaireront nos propres lanternes. Prendre part à l'action bénévole, c'est apporter son étincelle là où on aura toujours besoin de lumière. Et si briller veut dire se distinguer avec éclat, on peut donc affirmer mais haut et fort que bénévoler, c'est brillant. Du 14 au 20 avril, faisons briller notre communauté et n'hésitons pas à remercier les bénévoles qui nous entourent. Bonne semaine de l'Action bénévole!
Comme la tradition le veut, l'ouverture de la pêche est soulignée en grand aux îles pour encourager et saluer le courage et l'accomplissement de tous les travailleurs et travailleuses de la mer. CFIM vous propose de profiter de l'effervescence de la mise à l'eau pour mettre de l'avant vos produits et vos services. Contactez notre équipe publicitaire par téléphone au 418-986-5233 ou par courriel au pub@commercialcfim.ca pour découvrir nos forfaits et créer votre publicité de mise à l'eau. Faites vite, vous ne voulez assurément pas manquer le bateau.
Midi 45 minutes, je suis toujours en compagnie de Laurence Damioul et nous sommes maintenant rejoints également par Raphaël Lapierre. Bonjour Raphaël.
Bonjour François, bonjour Laurence.
Et si nous sommes tous maintenant en studio réunis comme ça, c'est pour le retour de l'actualité de la semaine que nous vous présentons tous les vendredis. Je commence avec toi, Raphaël. Il y a la communauté maritime qui a octroyé un contrat au CERMIM afin de réaliser la mise à jour du bilan énergétique du territoire et de son inventaire de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça implique?
Oui, François, ça implique tout d'abord évidemment un contrat. Très certainement, je vais mentionner donc le montant. C'est autour de 80 000 $. Là, je vous épargne les précisions au niveau des dollars et de la cent. Mais donc, ça vient du programme provincial Accélérer la transition climatique locale. Donc, c'est de l'argent du gouvernement du Québec qui vient financer ça. Le contexte dans lequel on fait une mise à jour du bilan énergétique du territoire, c'est que à l'échelle du Québec, toutes les MRC ont à se doter d'un plan climat, donc de venir un peu étudier, détailler leur situation. Nous, on avait de l'avance. C'est une démarche qui avait déjà été faite en 2013 et en 2019. Bien sûr, pas un plan climat directement, mais on avait déjà une bonne idée quand même de l'état de notre territoire là, sur le plan énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. Ça va aussi nourrir la mise à jour de la stratégie énergétique des îles qui vient à terme là, pour 2025. Donc, ça va permettre de préparer la nouvelle mouture de ce document-là. Faut dire qu'aussi, depuis les précédentes mises à jour, le contexte avait évolué, justement, l'apparition d'éoliennes sur le territoire. Le parc automobile aussi a changé. On l'entend partout, les voitures sont de plus en plus grosses, de plus en plus énergivores et on a un parc automobile, on le rappelle, là, qui est plus élevé que notre population, là, ce qui est quand même toujours une donnée à garder en tête. Puis il y a aussi eu des transitions là, du côté des systèmes de chauffage, donc on va pouvoir suivre un peu l'évolution de tout ça. La démarche d'enquête est menée principalement auprès des entreprises et organisations. Là. En gros, là, on va chercher le chiffre total qui est la quantité de pétrole qui rentre aux îles, là, finalement, puis on regarde finalement après par secteur quels sont les besoins énergétiques, puis on voit si tous ces chiffres-là fonctionnent ensemble. Ça nous donne une bonne idée de notre consommation d'énergie puis de son effet sur les émissions de gaz à effet de serre. La démarche est donc menée par le CERMIM, comme tu le disais. Pour la collecte de données, ça devrait se faire d'ici la mi-mai et le rapport devrait être produit pour octobre. Puis ensuite, ben ça viendra, comme je le disais, là, nourrir les différentes démarches stratégiques. Puis ça va éventuellement mener à des actions donc un peu plus concrètes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Merci Raphaël. Et Laurence, de ton côté, il y a Pêche et Océan Canada hein, qui vise une ouverture de la pêche au Sébaste pour le 15 juin. Mais mis à part ça, si j'ai bien compris, on nage encore un peu dans le noir pour la relance l'existence de cette pêcherie.
Toujours pas de nouvelles en ce qui a trait aux mesures de gestion ou au quota global pour l'unité 1, c'est-à-dire le golfe du Saint-Laurent. L'industrie avait déjà critiqué le manque de prévisibilité de la part de Pêche et Océan Canada, et je pense que l'absence de décision à ce jour n'aidera pas donc la cause du MPO, en quelque sorte. Le ministère se penche toujours, en fait, donc sur toutes ces questions-là, l'allocation, la répartition par flottille, le plan de pêche, donc nourri par le comité consultatif et les rencontres donc du début mars. Il faut se rappeler par contre que la ministre Leboutier, Diane Leboutier, évidemment, avait quant à elle fermé la porte à revoir la répartition par flottille en entrevue à CFIM. Donc pour ma part, de lire que le ministère se penche encore là-dessus, est-ce qu'on peut en conclure un signe d'ouverture, un remaniement donc de la répartition de l'allocation? Peut-être, mais le peut-être est gros. Le point d'interrogation encore plus. On est donc à deux mois à peu près de l'ouverture, la relance donc de cette pêche qui était sous moratoire pendant 30 ans, mais toujours pas d'idée en fait officielle de ce à quoi pourrait ressembler un plan de pêche et le quota. Puis on s'entend, le quota provisoire qui a été annoncé de 25 000 tonnes, qui est un plancher minimum, ne convainc pas ni les industriels, ni les pêcheurs, ni les travailleurs de la mer en général. Donc je pense que tout le monde a bien hâte d'avoir des nouvelles, à juste titre.
Et à juste titre, et justement, le temps file, et ça sera donc un dossier à suivre très certainement. Raphaël, sinon il y a le député des Îles à l'Assemblée nationale, Joël Arsenault, qui se fait le porteur d'une pétition qui demande à Québec de rembourser le coût réel des déplacements médicaux.
Oui, François, bon, on le sait bien sûr, l'insularité amène évidemment là des surcoûts quand vient le temps de se déplacer pour recevoir des soins de santé. Donc, le député qui justifie cette demande-là auprès du gouvernement par la hausse du coût de la vie et aussi le contexte de vieillissement de la population. Donc, on parle d'une situation qui est de plus en plus intenable pour les patients des régions éloignées. Donc, on le présente comme une question d'équité, bien sûr, pour permettre aux résidents des régions d'avoir accès finalement aux mêmes soins de santé que ceux des grands centres, à juste titre en ce sens-là. On espère donc évidemment que ça va permettre de faire cheminer ce dossier-là auprès du gouvernement, lui faire reconnaître l'ampleur du problème. Il faut quand même mentionner que les sommes accordées dans le cadre de la politique du déplacement des usagers là depuis mai 2023 s'est indexé à chaque année, ce qui était alors un gain, mais on parle quand même là d'une somme qui est insuffisante, et particulièrement pour les accompagnateurs et accompagnatrices. C'est vraiment, vraiment de ce côté-là que le bas blesse là, encore plus là, que pour les usagers directement. Mais donc, à suivre, ça fait partie des dossiers quand même qui ont été soulevés plusieurs fois là, par le passé, par le député Arsenault, mais qui est allé d'une pétition et qui a fait quand même, qui a circulé quand même beaucoup sur les médias sociaux, notons-le.
Et qu'est-ce qu'on a surveillé d'autre cette semaine dans l'actualité, Laurence?
Donc, l'octroi d'un financement de 100 000 $ à trois projets grâce au Fonds Région et Ruralité, donc qui est piloté par la communauté maritime. Donc, trois projets qui chacun, en fait, se sont vus octroyer 100 000 $. Tout d'abord, Carrefour Unité pour la halte chaleur à Hauteuil de Tolérance, donc qui se situe en plein Cap-aux-Meules. Le club nautique de Cap-aux-Meules, lui, qui reçoit donc du financement pour remplacer une partie des quais du port de Plaisance, et le club nautique du Chenal à Avromaison, donc a reçu cet argent pour l'acquisition d'un terrain qui servira à aménager un espace de stationnement et un parc à bateaux, ce qui a du sens vu le profil de Marina. En culture, quatre artistes et deux organismes qui ont obtenu des bourses totalisant 106 500 $ en provenance du programme de partenariat territorial. En liste, Brigitte Leblanc, Geneviève Reisser, François-Guillaume Leblanc, Claude Bourque, Auvieux-Treuil et le Festival de cirque qui se sont donc mérités ces bourses. Et finalement, les gagnantes du volet local de secondaire en spectacle vont représenter la région lors du rendez-vous pan-québécois qui se déroule à Thetford du 30 mai au 2 juin. C'est le numéro « Je voudrais voir la mère des Madeliniennes » Mélia Bourque, Charlotte Hubert, Noémie Leblanc, Florence Noël, Léonie Noël et Romy Sumara qui a remporté la finale régionale.
Prenons le temps de souligner aussi en fin de semaine, il y a des compétitions sportives, la Coupe Chevrolet hockey masculin, ça se déroule présentement, et il y a aussi une compétition du côté du club élite de natation des îles. J'ai perdu le nom de la compétition.
Ah, moi je le sais, donc c'est Fast and Furious à Charlottetown.
Et je savais que Laurence allait s'en souvenir.
Alors, j'en profite également de ce retour sur sur l'actualité pour vous rappeler que mardi prochain, nous tiendrons une table ronde dès midi à l'émission L'Épreuve des faits pour faire le tour des questions, des préoccupations qui peuvent être soulevées autour de la passe Archipel, cette redevance touristique qui entrera en vigueur le 1er mai prochain. Ça sera en compagnie de la municipalité des Îles, de l'association touristique régionale, d'un expert dans le domaine du tourisme également. On vous invite à communiquer avec nous au info@commercialcfm.ca pour partager vos préoccupations, vos questions sur la question. Merci beaucoup Laurence et Raphaël pour ce retour sur l'actualité.
François, même avant de quitter, salutations aux bénévoles de la station CFIM. C'est la semaine de l'action bénévole en ce moment. Bon, vous l'avez entendu sur nos ondes, c'est célébré à tous les niveaux. Donc à la fois les gens qui y vont d'animation et donc qui font partie de notre programmation, aussi toutes les personnes qui gravitent autour de la radio, les membres de notre conseil d'administration. Donc en cette semaine qui vient reconnaître l'engagement bénévole au nom de toute la station, là, je vais me faire un plaisir de saluer tout le monde et de les remercier pour leur implication là, qui vient nourrir notre quotidien et donc par le fait même celui de toute la population des îles.
Merci beaucoup.
Avis à la population des îles. Ce mardi midi, à l'émission L'Épreuve des faits sur les ondes de CFIM, se tiendra une table ronde au sujet de la redevance touristique qui entrera en vigueur le 1er mai prochain. Vous avez des questions sur la passe Archipel, des préoccupations ou des interrogations? Communiquez avec nous au info@commercialcfm.ca et nous poserons vos questions aux intervenants présents. Autour de la table pour faire le tour du sujet, le maire des îles, Antonin Valiquette, le professeur au département d'études urbaines et touristiques, Dominique Lapointe, et la présidente de l'Association touristique régionale, France Grou. C'est un rendez-vous ce mardi 23 avril dès midi sur les ondes de CFIM.
Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne.
Alcoolique Anonyme tiendra une réunion ce soir à 20h au sous-sol du presbytère de Fatima. Pour rejoindre Alcoolique Anonyme aux îles, faites le 986-44-74 ou sur Internet www.aa-quebec.org.
Ici François Delisle au micro. C'est ainsi que se termine cette édition de l'émission L'Épreuve des faits. Merci aux journalistes Raphaël Lapierre et Laurence Damioul. Merci à nos invités Louis-Michel Turbide et Jean-Hugo Vigneault pour leur participation à l'émission. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à demeurer à l'écoute de CFIM pour l'émission La diffusion du dernier match de Génie en herbe qui se déroulait samedi dernier au Pas perdu. Je vous invite également à demeurer à l'écoute dès 14h pour l'émission De long en large avec Pierre Aucoin et je vous dis à la semaine prochaine.
Ce lundi, débutez la semaine avec nous. On retrouve toute l'équipe, Jean Chevary, Véronique Harvey et Raphaël Lapierre. Pascal Poirier est l'invité de Jean Chevary. On discute avec Aurélie Coignet de la Corporation culturelle des îles Arimage. Et je reçois Philippe Lapointe, chroniqueur au Journal de Montréal, qui est derrière le livre « Jouer avec le feu autour du monde ». On parle barbecue. C'est la super saison pour ça. Dès 6h, ce lundi, débutez votre semaine du bon pied avec nous sur les ondes du son de la mer.
Chanta sans fermer les yeux dans le noir. Et demain, on se demandera sans savoir. We'll be right back.
Restez bien informés, restez branchés sur le 92,7 CFIM, la radio des Îles de la Madeleine.